Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de RFI. L'accueil des réfugiés fait l'objet en France d'un débat permanent qui a été éclairé par un fait divers extraordinaire. Un jeune homme malien a réussi l'exploit d'escalader un immeuble pour aller sauver un bambin prêt à tomber de son balcon. Le film de ce sauvetage a fait le tour de la planète et Mamoudou Gossama a vu sa vie basculer. Le jeune homme, fraîchement arrivé par des routes périlleuses, était sans papier. Son acte héroïque lui a valu une reconnaissance nationale, une régularisation rapide et un job chez les pompiers. Sa bravoure, unanimement louée, a été montrée en exemple de ce que l'immigration peut avoir de positif. Mais certains s'inquiètent de voir ce cas particulier occulter une politique en matière d'asile qu'il juge manquer de générosité. Alors, l'image du héros valorise bien sûr tous les réfugiés, mais tous ne bénéficieront pas de cet incroyable coup de pouce du destin. L'épopée de Mamoudou Gossama aide-t-elle la cause des migrants ? On va en parler ce soir avec deux invités que je vous présente tout de suite. Héloïse Marie est présidente de l'association BAM, c'est le bureau d'accompagnement et d'accueil des migrants. Bonsoir à vous Héloïse Marie.
Bonsoir.
Et puis Laetitia Avia est députée de Paris, porte-parole de La République En Marche, membre de la commission des lois à l'Assemblée Nationale. Bonsoir Laetitia Avia.
Bonsoir.
Merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation de RFI. Alors, le débat sur l'immigration en France est généralement plutôt tendu, on va dire. Est-ce que cette affaire Gossama, cette image de courage, de dévouement, est de nature à apaiser la tension, à changer la vision des Français qui sont réticents à considérer l'immigration comme un atout ? Héloïse Marie.
Je pense que globalement, les Français considèrent l'immigration comme un atout. C'est une erreur de penser que ce n'est pas le cas.
Je parle de ceux qui pensent que...
Oui, bien entendu. Mmh. Bien sûr, certains ont toujours l'esprit chagrin, mais l'air de rien. Globalement, on considère dans l'Union européenne, dans plein de pays, que l'arrivée des migrants a aussi augmenté les PIB de manière exceptionnelle. L'arrivée des migrants, c'est aussi une main-d'œuvre. C'est aussi des personnes qui sont payent des impôts. On oublie trop souvent les sans-papiers, par exemple, qui payent régulièrement des impôts en France. Donc l'image de Gossama, ça a juste donné quoi ? Ça a juste mis en lumière la situation de milliers d'hommes et de femmes en France qui sont des héros du quotidien, qui s'occupent de vos enfants, qui vous servent au restaurant, etc., etc., et qui font des tâches quotidiennes énormes et qui rendent des services énormes à la population française.
Mmh. Laetitia Avia, est-ce qu'il y aura un avant et un après Mamoudou Gossama ?
Je ne sais pas s'il y aura un avant et un après. Moi, en tout cas, j'espère que beaucoup de nos concitoyens considèrent l'immigration comme un atout. En effet, c'est important, c'est notre histoire avant tout, c'est l'histoire de notre pays. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas confondre les situations. L'histoire de Mamoudou Gossama, c'est pas celle d'un réfugié, c'est pas celle du droit d'asile, puisque son statut ne relevait pas non plus de celui du droit d'asile, et ça a été rappelé par le président de la République. En revanche, on est dans un acte héroïque, un acte qui emporte la solidarité nationale, un acte qui fait que oui, on a cette vision positive de la part de beaucoup de personnes, de cette personne issue de l'immigration. Ça fait du bien à notre pays, mais il faut pas confondre cela avec le reste des situations et avec tout simplement la politique migratoire. On est dans une situation où cette personne a accompli un acte pour notre nation et où le président de la République s'est demandé ce qu'on pouvait faire, nous, en retour. Qu'est-ce qu'on pouvait lui apporter ? Eh bien, ce qu'on pouvait lui apporter, c'était de la stabilité, de la dignité, de l'intégration, cela par une voie professionnelle et par la stabilisation de sa situation via une naturalisation.
Alors justement, dans un magazine, il y a un philosophe qui pose cette question. Faut-il, dit-il, être un héros pour être traité avec dignité ? Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion de Raphaël Glucksmann, puisque c'est lui qui la pose, qui estime donc que l'action de Mamoudou Gossama met en lumière la question du traitement finalement contesté par certains des migrants en France. Héloïse Marie.
Le principe, c'est que on s'est interrogé sur pourquoi y avait-il eu autant de facilité à escalader cet immeuble. Et en fait, il suffit d'être passé et d'avoir vu un jour Ciota et Melilla et les grilles de Ciotat et Melilla pour se rendre compte qu'effectivement, les migrants sont des champions de l'escalade. Partout en Europe, on a installé des frontières, des grilles, des grillages. On a mis en place quasiment une petite armée privée via Frontex pour empêcher l'arrivée des migrants. Et tous ont à cœur de pouvoir arriver en France. On nous vend surtout une immigration qui voudrait aller vers l'Angleterre. C'est absolument faux, les chiffres le démontrent maintenant. Par contre, en France, on met plein de frontières en place, qu'elles soient physiques, comme à la Roya, ou administratives, via Dublin par exemple, ou vers les évacuations. On pourrait passer parler aussi de l'échec de la dernière évacuation du campement du Millénaire, pour que les demandeurs d'asile n'accèdent pas à leur droit, qui est celui de déposer l'asile. Vous disiez, madame, que c'est une situation exceptionnelle et qu'il n'était pas en situation de demander l'asile. C'est faux. Il a demandé l'asile.
Il n'était pas en situation de l'obtenir.
Il a demandé.
D'être un réfugié.
Il a demandé l'asile, il ne l'a pas obtenu. Il ne l'a pas obtenu alors que ce monsieur avait traversé la Libye. Cette Libye, dont il y a si peu de temps, on voulait installer un hotspot. Il ne l'a pas obtenu tout simplement parce qu'on a considéré que son récit était stéréotypé, comme la majeure partie des cas actuellement à l'étude à l'OFPRA. Pourquoi ? Puisque là, actuellement à l'OFPRA, on demande que les récits soient écrits en français. Donc ça met en indisponibilité les gens d'accéder à leurs droits. Donc à un moment, soit on prend des mesures d'accueil dignes en France, à la hauteur de notre pays, ce qui n'est absolument pas le cas de la loi asile-immigration, soit on continue à faire la politique de l'autruche et des camps vont fleurir partout. Mais c'est le cas à Paris, mais c'est le cas aussi en province, en région. Et ça continuera. Pourquoi ? Parce qu'on a déstabilisé concrètement l'Afrique, on a déstabilisé aussi l'Afghanistan, on a déstabilisé notamment la Libye. Et ça donne quoi ? Eh bien, ça donne des gens qui arrivent sur notre territoire.
D'accord. Alors, demandons à Laetitia Avia ce qu'elle pense justement de cette politique en faveur des demandeurs d'asile. Est-ce qu'elle vous paraît, vous, équilibrée ?
Beaucoup de choses ont été dites précédemment. Je voudrais tout d'abord souligner que je pense qu'il ne faut pas non plus modérer l'acte de Mamoudou Gassama. Et je pense que nous avons tous constaté qu'il avait une capacité, une propension à monter avec facilité ces quatre étages, aussi grâce à des capacités physiques. Et je pense à une habitude détraction. Mais au-delà de cet élément, la dignité, vous en parliez. Oui, la dignité, je pense que c'est l'élément qui a été le cœur de cette loi asile-immigration. Moi, j'ai traité des dossiers de demandeurs d'asile. Je suis avocate de profession. Je veux dire que c'est très très compliqué lorsque l'on a des personnes qui fuient des théâtres de guerre, qui sont dans des situations les plus terribles possibles, de leur dire, mais écoutez, on va pas pouvoir finalement sceller votre sort avant, à mon avis, entre 18 et 24 mois. Au moment où je pratiquais en tout cas cette matière, on était sur ces délais-là, même s'ils ont été quelque peu raccourcis, mais même 14 mois, je trouve que c'est encore bien trop important.
C'est dans le meilleur des cas,
donc
parce
se dire que voilà,
déboutés.
Au bout de 6 mois,
déboutés.
Voilà, on organise la procédure de manière à ce qu'au bout de 6 mois, chacun soit finalement scellé sur son sort, sache s'il va pouvoir s'installer, construire une famille, s'intégrer au sein de notre pays. Au bout de 6 mois, et c'est ce qui a été intégré lors des débats parlementaires dans la loi asile-immigration, l'autorisation de travail, par exemple, pourra être possible. Vous parliez de la difficulté du choix de la langue. En effet, j'ai assisté à beaucoup d'auditions au sein de l'OFPRA. Il y a une difficulté sur la langue, il y a une difficulté aussi pour trouver les interprètes, parce que on avait des langues qui évoluaient au cours de la procédure, ça devenait très très compliqué. Nous, on a arrêté un système, c'est-à-dire que le demandeur d'asile, il notifie lors de sa demande une langue et c'est la langue durant toute la procédure. Vous parliez des camps parisiens submergés. Oui, je suis députée de Paris, on est bien conscient de cette situation. L'évacuation du camp du Millénaire a été difficile, en effet.
Ça a été un échec.
Voilà. Mais on a aujourd'hui 900 personnes qui sont réparties dans des camps d'hébergement dans tout Paris. Bon, j'ai 50 qui sont d'urgence dans tout Paris. Bon, j'en ai 50 qui sont dans le 12e arrondissement, par exemple. Et ensuite, il faut que les CAES prennent le relais. Mais vous avez raison sur un sujet. À Paris, on a l'équivalent de 10% des places d'hébergement, alors que on a 40% des migrants qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut peut-être mieux orienter les migrants sur l'ensemble des territoires. Et aussi, pas juste les orienter le temps de leur demande, mais ensuite, après, leur permettre de s'installer, de se construire une famille là, de s'engager dans une vie économique sur ces territoires. Et c'est précisément ce que nous avons prévu dans cette loi asile-immigration.
Héloïse Marie.
Sur les CAES, juste une rapide précision.
Rappelez ce que sont les CAES.
Ce sont des centres d'accueil très court en fait, des centres d'hébergement où l'hébergement est de 11 jours, avec très peu de travailleurs sociaux à l'intérieur, avec un taux d'encadrement très faible d'assistants sociaux et de travailleurs sociaux en globalité. 11 jours pour trouver un hébergement, mais surtout pratiquer une politique du tri entre déboutés, accédant au statut, etc., et sans papier. Mais aussi mise en fuite.
Alors, débouté, c'est bien quelqu'un, donc, qui n'a pas obtenu son titre de demandeur d'asile, de réfugié. Voilà. Mais c'est juste pour préciser souvent, pour les auditeurs, alors, non, et donc, ce sont des personnes qui sont en situation irrégulière, donc.
Alors, non, parce qu'on peut être débouté à l'OFPRA, et néanmoins avoir accès à la CNDA, qui est la cour d'appel
parce
de l'OFPRA.
Parce qu'on est en recours.
Et oui, on n'est alors pas débouté. Voilà. Pas encore.
C'est pas une cour d'appel.
Il s'avère que, j'ai une prophylaxie de 50 personnes par permanence juridique et que tout juste je sors de permanence sans papier. Et que quand vous dites, madame, que on permet aux gens de s'installer dignement en France, ce n'est pas le cas quand on met en place des CAES qui n'ont d'autre but que de mettre le plus possible les gens dehors et de les renvoyer, voire de les expulser. C'est d'ailleurs la critique.
C'est vous qui l'indiquez.
C'est d'ailleurs la critique que vous fait l'ensemble des organisations d'aide aux migrants. Et c'est un peu le problème, c'est que votre loi asile et migration a créé une espèce de majorité contre vous. Toutes les organisations, le GISTI, la CIMAD, le Secours catholique, le BAM bien entendu, mais pas que. Plus de 100 organisations ont dit que votre politique était une politique d'exclusion, d'expulsion, une politique raciste. Et ça, c'est un problème.
Écoutez, je vous permets absolument pas d'utiliser des termes de cette teneur
que vous me
à notre
permettez
égard.
Ou pas,
vous ne pouvez pas. Non. Je suis en train de vous dire. Vous êtes en train de dire que vous êtes juriste. Vous ne pouvez pas là à cette antenne. C'est une injure publique qualifiée de raciste.
Non, j'ai dit que votre politique était raciste.
Oui, donc vous la qualifiez de raciste. Donc ça, ce sont des propos que vous ne pouvez pas tenir.
Surtout si vous
qualifiez de juriste. Il faut savoir raison garder lorsque l'on aborde des sujets aussi délicats et aussi sensibles. Il faut éviter ces propos outranciers et irrespectueux de toutes les parties prenantes. Est-ce que vous pensez qu'il est évident de mener une politique équilibrée sur ces sujets? Est-ce que vous pensez qu'on légifère à la légère sur des éléments comme cela? On a travaillé énormément pour trouver un point d'équilibre. Mais j'aimerais peut-être que vous rappeliez que lorsque nous œuvrons par exemple pour la réunification familiale, notamment en ce qui concerne les jeunes filles excisées qui vont pouvoir retrouver famille, frères et sœurs, pouvoir se réinstaller en France avec leur famille, est-ce qu'il y a là un front commun des associations contre nous? Lorsque l'on permet de favoriser aussi le passeport étudiant, de permettre que des personnes viennent se faire soigner en France dans le cadre justement d'une aide de leur famille, est-ce qu'il y a un front des associations contre nous? Je pense qu'il faut savoir garder un certain équilibre aussi dans les éléments qui ont été portés dans le cadre de cette loi. Oui, parce que vous avez utilisé des propos qui, à mon sens, sont extrêmement outranciers et qui ne peuvent pas être utilisés dans le cadre d'un débat, en tout cas respectueux, entre personnes responsables.
Ces propos, madame, sont les propos de l'ensemble des organisations d'aide aux migrants.
Vous savez, j'ai fait énormément de débats, personne ne m'a qualifié de raciste.
Vous avez qualifié
la politique que l'on menait de raciste, ça revient exactement à la même chose.
Non, ça ne revient pas exactement à la même chose, madame.
Une politique raciste est
absolument
une politique...
Pas.
Une divergence manifeste entre votre vision, je dirais, de la politique gouvernementale concernant les demandeurs d'asile. Je voudrais faire avancer ce débat et aborder un deuxième thème, il nous reste 5 minutes, parce que devait débuter hier le procès de deux Suisses, une Italienne poursuivie pour avoir fait rentrer des migrants en France, finalement repoussé une fois encore cette... on va peut-être rappeler très rapidement, vous êtes juriste, pourquoi ce procès a été renvoyé en novembre? C'est une question de... on appelle ça une question de... prioritaire de constitutionnalité, c'est ça?
Oui, en fait, une question a été présentée devant le Conseil constitutionnel afin de savoir si le texte tel qu'il existe aujourd'hui concernant l'aide à l'entrée et à la circulation en France, donc qu'on appelle communément le délit de solidarité, ouais, est constitutionnel ou non. Le fondement fondement de cette QPC étant de savoir si ce texte s'oppose à la notion de fraternité, qui est un des piliers de nos valeurs républicaines, et que dans le cadre de cette affaire, il est proposé d'ériger en valeur constitutionnelle. Donc c'est une question qui est posée au Conseil constitutionnel. D'accord. La fraternité est-elle un élément constitutionnel ?
Et Héloïse Marie, vous nous rappelez ce qu'on reproche à ces gens ?
On leur reproche d'avoir aidé les gens au séjour illégal.
D'accord.
Globalement, et d'avoir facilité leur entrée sur le territoire français. Et juste, j'aimerais rappeler que peu de temps avant, Defend Europe avait été s'amuser dans le col de l'Échelle et qu'il ne leur est rien arrivé et qu'ils n'ont pas été poursuivis. Alors qu'ils ont mis en danger des migrants, puisqu'ils étaient en train de passer, effectivement, mais qu'ils les ont empêchés de passer, alors au prix de leur vie, parfois.
J'ai pas d'informations sur l'existence ou non de procédures à leur encontre, donc je peux pas commenter.
D'accord. La question que je pose, elle est plus d'ordre philosophique. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut sanctionner ce qu'on appelle pénalement
qu'on appelle
donc l'aide au franchissement des frontières ? Je commence avec vous, Héloïse Marie.
Alors moi, je suis ce qu'on appelle une délinquante solidaire. Tous les jours, j'ai fait héberger des mineurs qui sont en situation irrégulière. Tous les jours, j'aide des migrants à obtenir des papiers, parfois difficilement. Tous les jours, j'héberge des gens. Moi, les membres de mon association, comme plein d'autres personnes solidaires, tous les jours nous aidons, et heureusement, puisque les pouvoirs publics sont très faillibles sur la question de l'accueil.
Donc pour aider les migrants, vous pensez qu'on peut se mettre hors la loi ? Est-ce que la désobéissance civile, Laetitia Avia, peut se justifier dans ce cas ?
Dans les cas qui ont été évoqués justement précédemment, je pense qu'il y a une nécessité de faire preuve de solidarité. Et la majorité présidentielle, tout comme le gouvernement, est tout à fait d'accord avec ces éléments-là. La difficulté qu'il y avait dans cette définition de l'acte à l'aide, à la circulation, à l'entrée, au séjour, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait ça le délit de solidarité. Il y a deux choses. Il y a la notion juridique, le délit en lui-même, et puis ce qu'on appelle le délit de solidarité, c'est lorsqu'on reconnaît qu'on a un acte de solidarité, un acte de fraternité, comme cela est évoqué dans l'affaire en cours, et qu'on se dit qu'on ne devrait pas être condamné pour cela. C'est pourquoi la majorité, auprès du gouvernement, dans le cadre d'Asile et Immigration, a déposé un amendement qui, dans ma qualification, je le dis comme ça, pour moi, ça enlève toute notion de solidarité du délit d'aide à l'entrée, à la circulation, au séjour. Parce qu'on vise expressément, pour les exclure de ce délit, tous les éléments qui consistent à fournir des conseils et de l'accompagnement, notamment juridiques, linguistiques, sociaux, des prestations de restauration, d'hébergement, des soins médicaux, pour assurer des conditions de vie dignes et décentes à ces personnes, ou pour préserver leur dignité ou leur intégrité physique.
D'accord.
Voilà. Donc ce sont des éléments qui font enlever toute notion de solidarité. Dès qu'on est dans un acte de réelle solidarité, et bien de réelle solidarité désintéressée, on ne doit pas être poursuivi.
Héloïse Marie, qu'est-ce que vous pensez alors de cet amendement ?
Moi, je pense que cet amendement, c'est à la fois un constat de l'échec en fait des politiques publiques, c'est-à-dire qu'effectivement, actuellement, l'aide aux migrants repose essentiellement sur des bénévoles, des citoyens comme vous et moi, mais aussi des gens qui n'ont pas forcément de papiers français, mais aussi des titres de séjour, etc., etc. Vous parliez du soutien linguistique. Par exemple, nous, dans nos permanences, ce sont des demandeurs d'asile qui font les traductions et qui font l'aide au récit, statutaire ou pas. Quand on parle de délit de solidarité, on oublie un peu vite qu'une dame de 80 ans, hier, est passée en procès parce qu'elle avait aidé des migrants. On oublie Cédric Héroux, on oublie actuellement le procès qui a lieu à Boulogne de Cubajani, etc., etc. Il y a aussi un ensemble...
On ne les oublie pas, c'est pour ça qu'on a légiféré, pour justement faire changer les choses.
Vous avez... Excusez-moi.
Mais la loi n'est pas promulguée, il faut laisser le schéma législatif avancer.
Entendu. Et il s'avère aussi que il n'est pas exactement dans la définition que vous donnez du délit de solidarité. Par exemple, le transport des migrants...
C'est parce que je suis pas allée jusqu'au bout. Ou bien tout transport directement lié à une de ces exceptions. Je suis pas allée jusqu'au bout pour limiter mon temps de parole.
Et nous, on est au bout de notre émission. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en dire plus. Je vous remercie en tout cas toutes les deux de vos interventions. Héloïse Marie, présidente de l'association BAM, le bureau d'accompagnement et d'accueil des migrants. Et Laetitia Avia, députée de Paris, porte-parole de La République En Marche, membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci également à Florence Ponce qui a préparé cette émission. Emmanuel Sévin, la documentation. Et Claude Battista qui la réalise. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale. Dans quelques secondes, un nouveau journal. Et si vous voulez réentendre ce débat, c'est possible sur notre site internet. Je vous en rappelle l'adresse rfi.fr. Bonsoir à tous.